Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Qui étaient les mages? Êtes-vous prêts pour faire leur connaissance? Matthieu, chapitre 2. Nous nous sommes tous déjà posé la question. Je me souviens, quand je n'étais qu'un petit garçon, je me demandais qui étaient ces gens. Combien étaient-ils? Étaient-ils réellement des rois? Montaient-ils vraiment des chameaux? Pourquoi sont-ils venus à Bethléem? Et comme l'a dit Paul, nous tirons la plupart des idées que nous avons sur ce fascinant groupe davantage de ceux qui dessinent les cartes de Noël que des théologiens. Vincent, qui a écrit des études bibliques très utiles, dit à ce sujet « Beaucoup de traditions absurdes et de suppositions ou conjectures concernant ces visiteurs du berceau de notre Seigneur ont trouvé leur place dans la croyance populaire et dans l'art chrétien. Ils étaient dix rois et au nombre de trois. On disait qu'ils étaient des représentants de trois familles, de Shem, Cham et Japhet. Et par conséquent, l'un d'eux est représenté comme un Éthiopien. Leurs noms sont donnés comme Caspar, Balthazar et Melchior. Vous en avez certainement entendu parler. Et il paraît que leurs trois crânes, assez étonnamment, ont été trouvés. Oui, ils ont été trouvés au XIIe siècle par l'évêque Reynald de Cologne. L'évêque les a creusés et savait tout de suite qu'il s'agissait de crânes. C'est très clair. Leurs yeux étaient encore dans les orbites fixées vers Bethléem. Aujourd'hui, croyez-le ou non, mes amis, ils sont exposés dans un cercueil d'une valeur inestimable dans une grande cathédrale en Europe. Maintenant, braves gens, franchement, tout ce que nous savons au sujet de ces mages, c'est un peu d'histoire, et ce qui est dit dans Matthieu. Nous sommes réellement très très limités en termes de détails. En plus de ce que nous savons ici de Matthieu, qui est très limité, il est dit. Voici des mages d'Orient arrivèrent. C'est ça, braves gens, juste là. Nous ne connaissons pas leur nom. Nous ne savons rien du tout à partir de ça. Toutefois, en rassemblant les pièces sur le plan historique, et nous avons des histoires très fascinantes. Une partie vient de l'Ancien Testament. Des livres comme Daniel, où les mages ou sages apparaissent dans plusieurs textes différents, dans d'autres livres de la Bible, ainsi que les écrits de Hérodote et d'autres historiens. Nous avons fondamentalement trouvé. Et puis voici l'idée principale au sujet de leur identité. Et puis nous allons entrer dans les détails. Et je pense que vous serez fascinés par cela. Nous allons passer beaucoup de temps dans l'histoire ce soir. Cela va être un enseignement et non une prédication. Nous croyons qu'ils étaient membres d'un groupe de prêtres orientaux, descendants d'une tribu originellement associée aux Mèdes. Maintenant, je veux juste vous rappeler quelque chose pour vous aider à vous faire une petite idée. Fondamentalement, dans l'histoire du monde, il y a eu quatre grands empires mondiaux. Le premier était l'empire babylonien. Schématiquement, il était établi dans le croissant fertile qui se trouve à l'est d'Israël, dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate, au nord du golfe arabique, et à l'est de ce que nous connaissons aujourd'hui comme Israël. C'est là que se trouvait l'empire babylonien. Il a été suivi par le deuxième grand empire mondial dont parle Daniel, et qui a été l'empire connu sous le nom de l'empire médo-perse. C'était un empire conglomérat, composé des Perses et des Mèdes. Les Mèdes étaient un peuple très grand et puissant. Le troisième grand empire mondial fut la Grèce. Lorsque l'empire médo-perse a été conquis par Alexandre le Grand, le monde est devenu grec, pour ainsi dire. Le quatrième grand empire était l'empire romain. En remontant dans le passé jusqu'à l'époque de l'Empire babylonien, on s'aperçoit que les Mèdes et les Perses existaient déjà. Il s'agit donc d'un peuple très ancien. En fait, beaucoup de personnes dans l'histoire retracent l'origine des Mèdes à l'époque où Abraham a été appelé hors de Ur, des Chaldéens, très très loin de nous, au 12e chapitre de la Genèse. Il se peut donc que ça ait été un peuple très très ancien, certes. Ce sont des personnes qui apparaissent au temps de l'Empire babylonien, parce que nous les voyons dans le livre de Daniel, Ils étaient là pendant l'Empire Médo-Perse, et ils ont existé tout au long de l'Empire grec, et existé encore au cours de l'Empire romain, lorsque le Christ est né. Ces mages faisaient donc partie d'un peuple très ancien. À propos du terme « mage », au verset 2, il est dit « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages, etc. » Le terme grec est « magos »,« magoi », »,« mage ». Il s'agit vraiment d'un terme intraduisible. Ce n'est pas un mot qu'on pourrait traduire. Il s'agit tout simplement de la désignation d'une tribu. La meilleure traduction à donner à ce terme est peut-être « mage ». Les mages constituaient une lignée de prêtres, une tribu sacerdotale parmi les Mèdes, ce très ancien et grand peuple. Ils étaient très habiles en astronomie et en astrologie. C'était une très grande préoccupation pour eux. Leur intérêt pour l'astronomie et l'astrologie n'était qu'une partie de leur occupation. Ils étaient en quelque sorte des occultistes. Ils avaient un genre de processus de divination. Ils étaient impliqués dans certaines choses que nous supposerions peut-être comme de la sorcellerie. Et c'est pour cette raison que le mot « mage » a été corrompu au cours de l'histoire pour devenir « magie », « magicien », qui est synonyme de « sorcier ». À l'origine, les mages étaient simplement une tribu païenne, sacerdotale, de personnes issues des Mèdes et des Perses. Il existe énormément de sources historiques pour valider cela. Ils se sont intéressés à l'astronomie, à l'astrologie et à l'étude des étoiles. À cette époque, on ne faisait pas une grande différence entre la superstition et la science. La science et l'astronomie, la superstition et l'astrologie, et les deux se confondaient aisément à l'époque. Maintenant, ce qui est intéressant à ce sujet, c'est qu'au temps de l'Empire babylonien, ces mages vivaient sur le territoire babylonien. Ils étaient présents aussi bien pendant la période babylonienne qu'au temps de l'Empire médo-perse. À l'époque de l'Empire babylonien, ils étaient très fortement influencés par les Juifs. Vous vous rappelez que l'une des choses que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a faites, c'était d'emmener Juda en captivité. Vous vous en souvenez? C'est ce qu'avait prédit Jérémie. Vous serez emmenés en captivité. Jérémie l'a déclaré, et bien entendu, même le livre des Lamentations se lamente à ce sujet. Et ils furent emmenés en captivité à Babylone. Eh bien, il y avait ces mages à Babylone. Ils étaient de très hauts fonctionnaires. À ce moment, ils étaient parvenus à un niveau élevé au sein de l'Empire babylonien, grâce à leur formidable intuition, leur sagesse, leur connaissance, leur astrologie et leur capacité au culte. Quel que soit le nom que vous donnez à cela, ils occupaient désormais une position proéminente. Ainsi donc, ils sont tout de suite entrés en contact avec tous ces Juifs qui avaient été amenés en captivité. Ils sont également entrés en contact avec un Juif très particulier du nom de Daniel, qui avait été promu dans l'Empire babylonien. Ils étaient par conséquent très familiers ou familiarisés avec la dispersion des Juifs à Babylone et la prophétie juive concernant le Messie. Ils ont été informés de ce qui existait vraiment sur le plan prophétique juif, à propos de celui qui devait venir. Voilà en substance qui ils étaient. Maintenant, j'aimerais vraiment creuser un tout petit peu et fixer le décor de ce qui se passe dans cet incroyable incident du chapitre 2 de Matthieu. Revenons en arrière et voyons leur histoire. Selon l'historien antique Hérodote, les mages étaient une tribu de personnes au sein d'un peuple plus vaste appelé les Mèdes. Maintenant, écoutez ceci. C'était une tribu de prêtres par hérédité. Autrement dit, ils étaient comme les Lévites en Israël. En Israël, il y avait 12 tribus. L'une de ces tribus était mise à part en tant que tribu sacerdotale. Et c'est eux qui rendaient ministère, qui servaient lors des rituels et des cérémonies religieuses du temple. C'étaient les Lévites. Eh bien, les Mèdes païens avaient quelque chose de similaire. Parmi toutes les tribus des Mèdes, ils en avaient choisi une pour opérer comme sacrificateur dans leur rituel païen. Et cette tribu qu'ils avaient choisie était les mages. Une fois de plus, il s'agit d'un terme que l'on ne saurait traduire vraiment. Il s'agit du nom donné à ce groupe sacerdotal. C'était un sacerdoce héréditaire. Comme je l'ai dit plus tôt, certains historiens les repèrent déjà dès l'époque reculée de Ur, en Chaldée, comme faisant partie d'un peuple nomade qui errait dans cette partie du monde, où se trouve la vérité. Nous ignorons si leur existence remonte aussi loin, ou s'ils apparaissent pour la première fois à l'époque babylonienne. Ce qui importe, c'est ceci. Pendant l'Empire mondial babylonien, ils étaient importants. Pendant l'Empire médo-perse, ils étaient importants. Au cours de l'Empire grec, ils étaient importants, et au sein de l'Empire romain, ils étaient importants, et pendant l'existence de ces empires, ils ont conservé une formidable position de proéminence en Orient. Vous voyez, même lorsque l'Empire grec était en vogue, il y avait encore une certaine culture et un certain pouvoir oriental. Même lorsque l'Empire romain était à la mode, il y avait une certaine puissance orientale, et pendant ces deux époques, les mages constituaient des personnes clés dans le gouvernement de l'Est, centré dans le croissant fertile, la région autour de Babylone et de la Médo-Perse. Ils apparaissent cependant toujours avec un pouvoir politique grandiose. C'est très important pour vous. Vous allez avoir une petite leçon d'histoire. Ils apparaissent toujours avec un pouvoir politique immense. Je dirais que la majorité des historiens, du moins ceux que je lis, et ceux auxquels nous avons fait allusion, les considèrent comme un peuple oriental qui s'est élevé grâce à leur fonction sacerdotale unique, plutôt que par leur pouvoir de divination unique, leur connaissance astrologique et astronomique. Ils ont atteint des niveaux de notoriété élevés, et ils se sont élevés au cours du règne babylonien, pendant le gouvernement médo-perse, et même à l'est dans certains cas, à l'époque grecque, et à coup sûr pendant la période romaine, pour être conseillers des familles royales en Orient. Et c'est là qu'ils ont acquis la dénomination de sages. Ce sont eux qu'on consultait au sujet des diverses choses que les rois et les dirigeants et les nobles et les princes voulaient savoir. Nous avons d'ailleurs une certaine histoire qui rend compte de leur activité religieuse. Je vais vous donner une petite description du type de religion dans lequel les mages étaient impliqués. Leur sacerdoce impliquait certaines fonctions, et en voici quelques éléments. Leur principal objet de culte semble avoir été le feu. Il apparaît dans l'histoire qu'ils adoraient ou avaient une certaine vénération pour le feu. Nous ne savons pas avec certitude pourquoi, mais il est possible qu'ils aient considéré le feu comme une sorte d'incarnation de la divinité. Et au fait, ils étaient monothéistes. Ils ne croyaient réellement qu'en un dieu, et avaient donc cela en commun avec Israël. Mais ils considéraient le feu comme élément principal de leur culte. En lien avec cela, ils avaient un autel sur lequel brûlait une flamme perpétuelle. Ils croyaient que cette flamme perpétuelle était allumée par Dieu depuis les cieux. Ils avaient donc cet autel à la flamme perpétuelle, sur l'autel, par ailleurs, dans leur temple et partout. Ils avaient aussi un autre autel, et sur cet autre autel, ils offraient des sacrifices de sang. Ils avaient donc un système de sacrifices sanglants. Ils allumaient le feu pour brûler le sacrifice avec la flamme de l'autel perpétuel. Et puis une fois qu'ils avaient brûlé leur sacrifice, c'est intéressant, la victime était mangée par l'adorateur et par les prêtres mages. Ce qui est fascinant à ce sujet, c'est qu'on y retrouve quasiment un parallèle direct au judaïsme. Et vous pouvez ainsi voir à quel point Satan contrefait la véritable religion depuis le commencement. Il l'a toujours fait. Vous savez, même de nos jours, il y a la véritable chrétienté et il y a la fausse. Et à cette époque, il y avait un vrai système de sacrifice, avec un culte authentique à l'unique vrai Dieu, à qui il convient de le rendre. Et il existait aussi un faux monothéisme, un faux sacrifice de sang, de faux sacrifices et offrandes brûlées et ensuite consommées par l'adorateur et le sacrificateur. En plus de cela, ces gens avaient un système de prêtrise héréditaire, une fois de plus, une contrefaçon du sacerdoce lévitique. Ces gens portaient des petits paquets de baguettes de sourcier dans leurs vêtements, et ils se servaient de ces baguettes de sourcier pour les petites cérémonies, probablement comme l'urim et le toumim des prêtres, le grand prêtre, avec lesquels la connaissance de Dieu était recherchée. Ils croyaient en la distinction de certaines espèces d'animaux impurs. Ceci est intéressant. Ils croyaient que certains insectes et certains reptiles étaient impurs. Là encore, c'est un parallèle intéressant avec ce que Dieu a véritablement révélé à Israël. Une autre chose que j'ai trouvée très intéressante en lisant cela, c'est qu'ils avaient des rituels pour tout ce qui était lié au contact avec les cadavres et leur élimination ou évacuation, un autre point commun avec les standards de Dieu pour Israël. Ce groupe de religieux très intéressant apparaît donc sous l'Empire babylonien et s'élève à une formidable position de notoriété. Dans Jérémie 39, au verset 13, il est fait mention d'un homme du nom de Nergal, Charetser. Ce Nergal, Charetser, et le chef des mages dans la cour de Nebuchadnezzar. Ces rois orientaux, en commençant par Nebuchadnezzar, ont élevé les mages. En ce qui concerne les Écritures en tout cas, nous les voyons pour la première fois avec Nebuchadnezzar. À l'époque des Mèdes, ce groupe de prêtres avait déjà été promu au rang de haut fonctionnaire, conseiller du roi. Il s'agit donc de personnes d'une formidable puissance. Et même après la chute de Babylone, avec l'arrivée de l'Empire Médo-Perse, où l'on retrouve de grands dirigeants, à l'instar de Cyrus et des autres, des postes de hauts fonctionnaires du gouvernement étaient occupés par ce groupe qu'on appelle les mages. Ils étaient inégalés sur le plan politique. J'aimerais à présent que vous ouvriez votre Bible avec moi pendant une minute. Retournons à Daniel, et je voudrais vous montrer comment ils apparaissent dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 2. Quand j'en aurai terminé et que vous relirez le verset 1 de Matthieu 2, cela aura beaucoup plus de sens. Daniel, chapitre 2, au verset 10. Et nous ne prendrons pas le temps de définir tout le contexte, mais ici, nous nous trouvons dans la cour de Nebuchadnezzar. Daniel est présent. Les Juifs sont en captivité à Babylone et il est dit, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » Il est très probable que ces termes soient tous des synonymes. Astrologue et chaldéen pourraient donc n'être que d'autres manières de dire la même chose. Nous trouvons donc le mot « mage » ici. Ce n'est pas strictement le terme « magicien », qui n'est qu'une corruption du mot « mage » en français. Il est question de cette tribu de prêtres. Ils occupaient une position très proéminente à cette époque. Ils étaient connus comme les seuls capables d'interpréter les rêves. Vous vous rappelez cependant que Nebuchadnezzar avait fait ce rêve étrange et qu'aucun d'entre eux n'avait été capable de gérer cela. Maintenant, ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est qu'il existait un homme capable de l'interpréter. Vous savez qui c'était ? Il s'agissait de Daniel. Avançons un tout petit peu. Chapitre 4, verset 7. Nous voyons à nouveau les mages. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Verset 9. Belshazzar, chef des magiciens. Nous voici donc en face du maître des mages. Et j'essaie juste de ressortir le fait qu'ils sont mentionnés à plusieurs reprises dans le livre de Daniel. Et au lieu de les appeler magiciens, ils devraient être appelés mages. C'est essentiellement ce à quoi il fait allusion. Maintenant, quand Daniel est arrivé et que tous ces mages qui occupaient des postes élevés en tant que conseillers du roi se sont avérés incapables de fournir une quelconque réponse, Daniel a été en mesure de le faire, et quelque chose d'étonnant s'est produit. Daniel 5, verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. En parlant de Daniel, aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens. Comme c'est intéressant, Daniel était tellement habile pour dire les rêves du roi, que le roi en a fait le maître des mages. Ce qui fait que Daniel était littéralement à Babylone chef de tout ce groupe de prêtres. C'est passionnant. Ceci a donc mis Daniel dans la position extrêmement unique de pouvoir dispenser à ses mages toutes les informations relatives à l'Ancien Testament, ce qui, sans l'ombre d'un doute, est précisément ce que Daniel a fait. Nous savons que Daniel était un homme de Dieu. Nous savons que Daniel était un homme entièrement dévoué à l'adoration et à l'expression de sa foi, puisqu'il s'est retrouvé dans la fosse aux lions à cause de cela. Et il n'y a aucun questionnement dans mon esprit, sinon que Daniel et l'autre reste pieux de la diaspora, la dispersion, ont partagé leurs connaissances de l'Ancien Testament et les exemplaires des Écritures qu'ils avaient avec d'autres personnes à Babylone. Par ailleurs, lorsque le dernier décret de Cyrus est arrivé disant qu'ils pouvaient retourner dans leur pays, la majorité des Juifs ne sont jamais rentrés. La plupart des Juifs sont restés à Babylone, se sont mélangés, ont contracté des mariages mixtes, et tout au long de l'histoire babylonienne et médo-perse, il y a eu des personnes issues des familles nobles, des gens parmi les fonctionnaires de haut rang. Certains parlent même de monarques dans cette partie du monde et qui avaient du sang juif. Nous devrons assurément conclure que Daniel a eu une influence profonde dans la dispensation de cette information. Et au fait, je souhaiterais ajouter une note à ceci. Pendant que j'étudiais, J'ai trouvé cela très fascinant en y pensant. Si Daniel s'était avéré si capable de gagner ces mages et de les convaincre au sujet de la venue du Messie, comment se fait-il qu'ils aient monté un complot contre lui et qu'on l'ait jeté dans la fosse aux lions, s'il était si influent et si crédible? Je me suis mis donc à étudier, et le 6e chapitre de Daniel a révélé ce qu'il y a de plus intéressant. Vous n'avez pas besoin de... Nous n'allons pas parcourir tout cela. Mais ceci, dans le 6e chapitre de Daniel, nous trouvons un complot motivé par la jalousie contre Daniel. Ce qui est véritablement étonnant au sujet de ce complot, c'est qu'il n'est pas monté par les mages qui dominaient la hiérarchie de la cour royale. C'est une conspiration élaborée par des hommes connus, comme des satrapes. C'est le terme qu'on employait pour parler des gouverneurs régionaux, qui n'avaient aucun lien avec le palais. Alors, rappelez-vous que la conspiration qui est née de la jalousie vis-à-vis de Daniel n'était pas un complot conçu par les mages, ce qui encore m'amène à penser que Daniel était probablement très crédible et convaincant. En fait, vous rendez-vous compte, lorsque Daniel a effectivement été jeté dans la fosse aux lions, le roi a dit « Daniel, je sais que ton Dieu te délivrera ». Vous vous souvenez que le roi l'a réellement déclaré. Il était tellement convaincu de la puissance de Dieu, à travers le témoignage de Daniel. Je suis certain qu'il est allé vérifier aussi souvent qu'il a pu, pour s'assurer que tout ce qu'il avait anticipé était effectivement arrivé. Les mages ont donc conservé leur position de notoriété, influencés qu'ils ont été, sans doute, par un homme aussi grand que Daniel. Et il y en a eu très peu comme lui. Influencés qu'ils étaient par les juifs pieux de la dispersion. Influencés par les mariages mixtes et la culture juive qui leur était constamment imposée de bien des manières. Ils ont donc occupé et conservé une position de grande puissance dans la cour du roi, à l'époque de l'Empire Médo-Perse. Permettez-moi maintenant de dire autre chose de très intéressant. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu un grand roi perse du nom de Darius. Darius le Grand. C'était pendant l'Empire Médo-Perse. Cela se passe exactement au temps de Daniel. Darius est arrivé et il a déclaré « Je vais établir une religion nationale ». Et vous savez laquelle il a choisi? Le zoroastrisme. Nous n'avons pas le temps de nous attarder sur le zoroastrisme. Mais le zoroastrisme comportait beaucoup d'astrologie. Et il se pourrait bien que les dernières petites nuances de l'astrologie et les scrupules des mages à ce sujet aient produit la fusion qu'est le zoroastrisme. Il y a donc d'un côté ces mages avec leur propre religion culturelle. Au-dessus de cela, le judaïsme, et par-dessus tout, le zoroastrisme, se superpose. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un véritable panier de crabes. Cependant, le plus intéressant, c'est que les mages tenaient tant à conserver leur influence politique, et ils voulaient tellement garder leur puissance religieuse, que lorsque le décret de Darius, instituant le zoroastrisme comme religion en vigueur est sorti, ils se sont glissés dans ce truc en disant « Cela nous convient ». Et ils ont fait les ajustements nécessaires. Maintenant, ce que vous avez est très intéressant. Il y a ici des mages complètement engloutis. Vous avez certains d'entre eux, certainement, qui avec le temps se sont dévoués au zoroastrisme, tandis que d'autres s'engageaient aux anciennes formules « formation des mages ». Et d'autres encore, peut-être, croyaient sincèrement dans leur cœur que le dieu de Daniel était le véritable dieu. Et voici donc la clé. À partir de ce point, et avec l'évolution de l'histoire, les mages ont commencé à quitter l'engagement singulier à leur religion historique et se sont frayés un chemin dans d'autres choses. Certains ont pu se pencher sur le zoroastrisme, d'autres vers la religion mage ancienne, et je crois dans mon cœur que certains comme ces mages qui se sont présentés à la naissance du Christ étaient réellement de vrais chercheurs du Dieu véritable. Ceci vous donne donc une petite idée de l'arrière-plan. Je vais à présent parler un peu plus de cette histoire. Les mages étaient si puissants que les historiens nous disent qu'aucun Perse ne pouvait jamais devenir roi. Observez ceci maintenant. Aucun ne pouvait devenir roi, à moins de remplir deux conditions. Premièrement, il devait maîtriser la discipline scientifique et religieuse des mages. Deuxièmement, il devait être approuvé et couronné par les mages. Ça, c'est quelque chose. C'est du pouvoir. Savez-vous comment on appelait la sagesse des mages? Ils avaient un nom pour ça. Le nom qu'il donnait à cela était « la loi des Mèdes et des Perses ». Cette loi était la loi ou le code conçu par les mages. Et si vous voulez voir cette expression, elle se trouve dans Esther, chapitre 1, verset 19. et à plusieurs reprises dans Daniel 6. La loi des Mèdes et des Perses constituait le code, la discipline scientifique et religieuse des mages, et leur sagesse était celle qui était requise pour être monarque en Perse. En outre, les historiens nous disent qu'ils contrôlaient aussi bien le système judiciaire que la cour royale. Nous avons l'indication dans Esther, chapitre 1, verset 13, que les membres du tribunal royal, des juges, étaient entièrement choisis parmi les mages. Ils étaient puissants, c'est certain. Et vous ne devez pas perdre de vue en parlant de l'Empire perse et de l'Empire mède et de l'Empire babylonien qu'il est question de l'influence orientale. Il s'agit d'un gigantesque empire, aussi bien à l'époque babylonienne qu'au temps médo-perse. Il contrôlait littéralement la totalité du monde connu d'alors. C'étaient des personnes puissantes. Ils n'étaient pas seulement chargés de forger chacun des monarques qui étaient établis à cette époque, mais ils étaient également responsables de la mise en place des juges. Ils avaient un système de contrôle du despotisme qui pouvait découler d'une royauté. Il y avait donc des juges pour équilibrer et contrebalancer les choses face à un roi dictateur. L'histoire nous dit qu'ils connaissaient l'astronomie. Ils étaient très bons en mathématiques. Ils connaissaient l'histoire naturelle. Ils étaient doués en agriculture et en architecture. Et vous vous souvenez, je pense que c'est Acte 7, qui parle du fait que Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il en était de même pour quiconque avait grandi dans la noblesse orientale. Ils étaient élevés dans la loi des Mèdes et des Perses. Toute la noblesse était instruite par leurs soins, et c'est eux qui faisaient des rois. Ils étaient des faiseurs de rois, et personne de ceux qui gouvernaient ne pouvait le faire sans eux. Maintenant, comme je l'ai indiqué plus tôt, une de leurs compétences spéciales était l'interprétation des rêves. Et lorsqu'ils en ont été incapables, et que Daniel est entré en scène, il est devenu le chef, comme nous l'avons vu dans Daniel 5, verset 11. Le montage a été orchestré par Dieu pour fixer la scène de Matthieu chapitre 2, des centaines d'années avant la naissance de Jésus. Dieu a fait en sorte qu'un grand prophète hébreu dirige un groupe de mages pour qu'un jour, au moment de la naissance d'un bébé à Bethléem, certains de ces mages soient en mesure de se frayer un chemin jusqu'à la maison où se trouvait le nouveau-né. Cela s'appelle planifier l'histoire. Ainsi, la religion hybride syncrétiste des mages, très similaire au judaïsme, monothéiste, avec un sacerdoce héréditaire, le sacrifice de sang, croyait également à la révélation surnaturelle, croyait en la prophétie. Tous ces points communs ont facilité leur acceptation du judaïsme. Je le crois dans mon cœur, et c'est simplement ce que je crois à cause de ce que je vois se passer dans Matthieu 2. Je crois qu'il y avait apparemment et historiquement dans cette partie orientale du monde des mages païens qui craignaient Dieu. Je voudrais maintenant progresser jusqu'au temps de Jésus. Regardez avec moi dans Matthieu 2. Le temps a passé, siècle après siècle, jusqu'à ce que Jésus naisse. D'une certaine manière, et par une manière merveilleuse, Dieu a réussi à préserver des mages qui cherchent réellement. La plupart d'entre eux pouvaient être corrompus. Il y en avait certainement plusieurs qui étaient corrompus, et nous rencontrerons quelques-uns des corrompus qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Mais il y en avait aussi des authentiques. Il y en avait comme Corneille, vous savez, des païens qui craignent Dieu. Il y en avait comme Lydie, une païenne qui craignait Dieu. Il y en avait certains en arrière, là-bas, dans cette partie du monde, certains issus des mages, des faiseurs de rois de haut rang, dans le grand empire de l'Est. Il y en avait quelques-uns à cette époque qui attendaient toujours que la grande espérance de Daniel s'accomplisse. Vous voyez, laissez-moi à présent préparer la scène. Politiquement parlant, Rome craignait l'Empire oriental. Si vous pouviez juste vous fixer une petite carte de l'Europe dans votre esprit, c'était ça l'Empire romain, ce gros fragment de l'Europe. Techniquement, il balayait jusqu'à l'Est. Cependant, à cause de la distance, à travers la Méditerranée, à travers le désert ardent pour parvenir à l'Est. Il y avait un certain isolement dans l'Est qui a causé bien des soucis à Rome. Les Romains craignaient toujours que ce qui était alors devenu l'Empire Parthe, l'Empire oriental composé des Mèdes, des Perses et l'ancien territoire babylonien, que l'Empire Parthe ne continue de constituer une source d'anxiété pour Rome. Vous savez, Rome avait tiré ses tentacules pour gouverner le monde. Mais elle ne s'est jamais sentie en sécurité avec l'Empire Parthe. Ils étaient devenus des ennemis violents, de violents antagonistes. Ils se sont battus en 55 avant Jésus-Christ, Ils se sont battus en 40 avant Jésus-Christ. Ils ont combattu. Et ce qui est fascinant, c'est que, vous savez, où ils ont toujours combattu, le Grand Empire de l'Ouest et le Grand Empire de l'Est se sont retrouvés. Et devinez où ils ont toujours combattu. Tout simplement, le long de la côte méditerranéenne. La Syrie, la Jordanie, la Palestine. Israël n'était qu'un petit territoire non habité entre les puissances de l'Orient et les puissances occidentales. Rome les craignait. Et si vous regardez le verset 3 de Matthieu 2, il est dit « Le roi Hérode, ayant appris cela, fut quoi ? Troublé. Quand il a appris que les mages, les faiseurs de monarques orientaux, étaient arrivés à Jérusalem, il a été secoué, et nous verrons un peu plus à ce sujet dans quelques minutes. Permettez-moi de vous dire un peu plus ce qui se passe. Quand nous arrivons à l'époque du Christ, les mages sont encore très puissants à l'Est. Certains d'entre eux se servaient de leur pouvoir, leur position, leurs compétences, avec une grande sagesse humaine. Certains d'entre eux sont vraiment devenus des gens horribles, exactement comme n'importe quel scientifique, n'importe quel prêtre, n'importe quel prédicateur, n'importe quelle autre personne habile des temps modernes pourrait soit utiliser son métier pour tromper, soit alors l'exercer honnêtement. Certains mages étaient honnêtes, et ils exaltaient l'art de la sagesse et des conseils politiques. D'autres étaient corrompus et prostituaient leur profession. Les deux espèces étaient très courantes à l'époque méditerranéenne quand le Christ est né. Laissez-moi vous présenter quelques-uns des corrompus. Ouvrez vos Bibles dans Actes 8. Acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Et on nous parle de ces miracles. Et vous parvenez au verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Il était quelqu'un d'important. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. C'est un homme qui a abaissé sa position dans la tromperie, pour ainsi dire. Il s'est vendu à Satan. Il utilisait la sorcellerie. Vous l'avez remarqué ? La racine de ce mot est « mage ». Mage huo en grec. Il employait son art comme une prostitution. Plus tard, il a tenté d'acheter le Saint-Esprit, et Pierre l'a carrément mis à la porte. Il dit au verset 20, « Que ton argent périsse avec toi. » Verset 21, « Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. » Verset 22, « Repens-toi donc de ta méchanceté. » Verset 23, « Je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Mince alors, Pierre n'a pas mâché ses mots. Regardez le 13e chapitre des Actes, au verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il s'agit bien sûr ici de Paul et Barnabas qui démarrent leur premier voyage missionnaire. Voici qu'ils se trouvent à Chypre, la petite île de la côte est de la Méditerranée, île de Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Et ça continue jusqu'au verset 8, et il est dit « Mais Élymas, le magicien ». La version grecque parle d'Élymas, le magos, Élymas, le mage. Et en voici un autre qui a corrompu son art, perverti cette étrange religion païenne, afin de rechercher les fins de Satan. Et bien sûr, il a essayé de salir Paul. Ce dernier lui dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice ». Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Verset 11. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras plus le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Paul a réglé son compte à celui-ci. Et vous voyez qu'aussi bien Simon qu'Élymas ont été amenés dans la servitude de Satan en personne, qui est le dieu de tous les astrologues, et le dieu de tous les sorciers. Et franchement, c'est ce genre d'individus qui ont poussé les personnes intelligentes de l'Empire romain à mépriser les sorciers. Philo le Romain dit « Ce sont des vipères, ce sont des scorpions et d'autres créatures venimeuses. » Voyez-vous, c'est le genre de personnes, le genre de mages que les Romains méprisaient. Cependant, à l'Est, comme je l'ai dit, c'était des hommes extrêmement puissants, et certains d'entre eux, sans aucun doute à ce sujet dans mon esprit, étaient des personnes authentiques. Cependant, à l'époque de Jésus, au temps de Jésus dans l'Empire oriental, il y avait un organe directeur, appelé les Megistanes. Vous n'avez pas besoin, cela ne fera pas partie du quiz, et vous n'avez donc pas à vous inquiéter à ce sujet. Cependant, il y avait donc une maison souveraine appelée les Megistanes. C'était un peu comme le Sénat aux États-Unis d'Amérique, d'accord? Ce n'est qu'un nom, les Megistanes. Et cette maison souveraine gouvernait à cette époque de l'Empire Parthe-Perse. Écoutez à présent. Elles étaient absolues dans la sélection d'un roi. Ils étaient faiseurs de monarques. Et vous savez ce qui est arrivé? Ils avaient de vrais soucis avec le roi qu'ils avaient. Ils voulaient combattre Rome et la renverser. Malheureusement, ils avaient un perdant en guise de roi, Phra Athès IV. Et Phra Athès IV a été destitué. Et écoutez, les mages recherchaient un nouveau roi de l'Est, un nouveau roi de l'Empire oriental qui pourrait se lever contre Rome. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, Hérode savait ce qui se tramait. Ils étaient faiseurs de rois. Et lorsqu'ils ont commencé à se balader dans la ville en disant « Où est le nouveau roi des Juifs ?» Hérode a paniqué quand soudain ces faiseurs de monarques perses ont fait leur apparition à Jérusalem, voyageant sans doute en pleine force avec toute leur pompe orientale. Ils portaient habituellement des chapeaux coniques avec des pointes sur le haut et de grandes choses qui descendaient tout en bas de leur menton. Ils montaient des chevaux perses et non des chameaux. Quand ils sont entrés, ils ne sont pas venus seuls. D'après les estimations historiques, ils seraient venus avec la cavalerie persane. Quand ils sont arrivés dans la ville de Jérusalem, Hérode a jeté un coup d'œil de la petite fenêtre de son palais, et il a piqué une crise. Ce sont des hommes puissants, et pour ne rien arranger, son armée était en mission à l'extérieur du pays. La Bible dit qu'Hérode était troublé. Je suppose bien qu'il l'était. Le mot grec signifie qu'il était agité, comme votre machine à laver. Il tremblait. Voyez-vous, Hérode avait un titre. Vous savez ce qu'était Hérode? Roi des Juifs. Il l'avait obtenu de César Auguste. César Auguste l'avait couronné roi des Juifs, et il a compris que le grand rêve de sa vie était d'avoir ce petit état tampon sous son pouvoir. Et ici, il se retrouve en sandwich entre deux énormes empires rivaux. Et tout à coup arrive cette impressionnante coterie de Perse dans la ville, et il est paniqué. Et ils disent « Nous cherchons le nouveau roi ». À ce moment, Hérode se trouvait au bord de la mort, et César Auguste était très vieux, et sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Et depuis la retraite de Tibère, l'armée romaine n'avait même plus de commandant en chef. Et il savait que c'était le moment opportun pour provoquer une guerre de l'Est contre l'Occident. C'était le bon moment. Et Hérode tremblait. Vous dites, eh bien, que pensaient les mages? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils avaient regardé les choses sur le plan politique. Ils se sont peut-être dit, oh là là, le roi arrive. Je pense que cela est probablement vrai, mais en plus, je pense qu'ils ont vu les choses sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'en arrivant dans cette petite pièce à Bethléem, la Bible dit qu'ils ont adoré Jésus. Ils ont vu beaucoup plus qu'un roi. Je crois qu'ils ont vu le Messie dont ils avaient entendu parler depuis l'époque de Daniel. Je pense que nous sommes ici en présence de chercheurs païens, ayant la crainte de l'Éternel. Cela avait deux facettes. Je suis sûr qu'il pensait. Il s'agit peut-être du Sauveur, le Sauveur qui est appelé celui qui est oint, ce qui constitue une expression qui décrit un roi. Et peut-être qu'il ne sera pas juste un Sauveur, le Messie, mais il sera peut-être aussi celui qui réunira tous les Orientaux pour combattre l'oppression romaine. À ce propos, les mages savaient que le peuple d'Israël était de leur côté, et non pas avec Rome. Et c'est pour cette raison qu'ils sont entrés dans la ville et ont commencé à demander aux gens où se trouvait le nouveau roi. Ils pensaient que les gens d'Israël seraient tout simplement aussi enthousiastes qu'eux l'étaient. Mais voyez-vous, les gens d'Israël étaient aveuglés par leur incrédulité. Ne trouvez-vous pas cela fascinant? Ça l'est pour moi. Que les toutes premières personnes au monde à reconnaître l'arrivée du roi aient été des païens. Des païens! Cela vous dit-il quelque chose au sujet de l'histoire? Il est venu chez les siens, et les siens, quoi? Ne l'ont pas reçu. Matthieu suit cela jusqu'au bout. Le rejet du roi. Se pourrait-il que celui-ci soit le monarque invincible? Ils seraient en mesure de l'introniser. Ils pourraient le ramener avec eux, et pourraient le faire roi, et ils seraient en mesure d'unifier l'Est. Avec ce grand Messie au sujet duquel Daniel avait prophétisé, ils pourraient aller contre Rome avec invincibilité. Voici donc qu'entre à Jérusalem le groupe des mages, les faiseurs de monarques de l'Orient, sur leurs plus beaux chevaux, escortés par une cavalerie montée. La scène se trouve ainsi fixée, montée. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Revenez la prochaine fois. Nous n'avons pas le temps, cette fois-ci. Permettez-moi de conclure en disant ceci. Ne trouvez-vous pas passionnant la manière dont Dieu contrôle l'histoire? Cela vous fascine-t-il? Regardez maintenant. Vous avez observé tout ce que je vous ai indiqué et vous l'avez écouté. Et je vous ai parlé pendant 50 minutes. Et vous savez pourquoi c'était si passionnant pour vous? Ce n'est pas parce que ce n'était qu'un paquet de faits historiques, mais plutôt parce que vous voyez Dieu à l'œuvre. L'histoire est son histoire. Il y a de cela très longtemps, il a choisi un homme du nom de Daniel. Il l'a établi pour influencer certains hommes qui allaient arriver juste au bon moment. Vous dites, eh bien, pourquoi est-ce que Matthieu présente cela? Pourquoi? Écoutez, Matthieu, tout au long de son évangile, s'efforce de dire au monde que Jésus-Christ est quoi? Roi. Et juste pour s'assurer que personne ne passe à côté de ce message, il fait venir les faiseurs de monarques les plus célèbres du monde pour se prosterner à ses pieds. Voyez-vous, tout cela fait partie de la stratégie de Matthieu. Il est le roi. Et si Israël ne le reconnaît pas, alors Dieu attirera un groupe d'individus depuis la Perse pour l'identifier. Il est le roi. Dieu a planifié l'histoire comme un chef. Et ce qui est triste, c'est que les gens qui auraient dû savoir, les gens qui auraient dû le savoir, sont passés à côté de la plaque. Et des personnes venues de loin, celles qui n'auraient jamais deviné, se sont présentées et ont adoré. C'est ça l'histoire. Jésus est venu. Paul dit, d'abord pour les Juifs, mais aussi pour les gentils. Jésus est venu et il a dit, je suis venu, mais pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Israël a tourné le dos au Christ, et il appelait un peuple à partir de ce qui n'était pas un peuple. Il a tendu la main vers les païens, dit l'épître aux Romains, et nous a greffés. Et cet indice se trouvait juste là depuis le départ. Vous vous souvenez de ce qui est dit? Si la Bible dit que nous manquons de le louer, les pierres crieront. Et quand le roi est arrivé, bien-aimé, quand le roi est arrivé, si son peuple ne voulait pas le louer, alors Dieu allait veiller à ce qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Et il y a eu quelqu'un. Et vous savez que Noël est célébré dans notre monde aujourd'hui. Passez à côté des cartes de Noël et regardez les mages. Ils n'y comprennent rien. Ils ne comprennent pas le sens. Ils ne voient pas qui il est. Cependant, ici et là-bas, ça et là, certains d'entre nous comprennent, n'est-ce pas? Et il y en a parmi nous qui se prosternent devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La semaine prochaine, nous parlerons d'Hérode, du genre d'homme qu'il était, et pourquoi il a été pris de panique. Et je vous dirai ce qu'était cette étoile qui les a amenés à Bethléem. Prions. Père, la manière dont tu œuvres dans l'histoire va tout simplement au-delà de notre compréhension. Avec nos petites pensées limitées, nous regardons les choses et pensons comprendre. Et lorsque nous creusons de plus en plus en profondeur, nous découvrons tout à coup un monde dont nous n'avons jamais soupçonné l'existence. Un monde d'information, un monde de perspicacité qui s'étend dans nos esprits. Ton incroyable grandeur, ta puissance et ta sagesse inégalées. Peu importe combien ils étaient et quels aient été leurs noms, Seigneur, je te remercie pour les sages, les mages qui cherchaient le roi. Et je suis attristé à cause du peuple du roi qui n'a pas voulu de lui. Et je prierai, Seigneur, ce soir, qu'il y a certains dans notre assemblée qui ont agi comme le peuple du roi et lui ont tourné le dos en disant « Je n'en veux pas. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Père, je prie que tu convainques leur cœur, qu'ils soient comme ceux qui sont venus de très loin et qui ont éprouvé une grande joie et se sont prosternés et l'ont adoré. Merci aussi, parce que tu as prévu que nous fassions partie d'une église qui se prosterne devant lui en adoration. Nous te donnerons la louange, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, qui nous montre ta main puissante. Au nom de Jésus. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.